Avant d'écrire ceci, je ne savais pas ce qui m'avait tant touchée lors de la lecture de l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je me disais que c'était sans doute parce qu'elle a fait écho avec la maladie de ma grand-mère et son décès. Je me permets donc d'entrée de jeu un petit détour personnel. Ma grand-mère maternelle, de qui j'étais très proche, adorait la lecture et particulièrement celle d'outre-mer, et encore plus celle qui se situait en Italie, un des pays qu'elle a préféré visiter et celui dans lequel se situent les romans dont il sera question ici. Après avoir lu le premier tome, j'ai donc tout de suite voulu lui offrir. Malheureusement, elle n'a jamais eu le temps de le lire. Lorsque nous avons récupéré ses effets personnels à l'hôpital le jour de sa mort, le livre était déposé sur la table de chevet avec un signet à la page 49. J'ai débuté la lecture du deuxième tome peu après ses funérailles, comme s'il fallait que je continue de suivre cette histoire pour elle. Je vis mon deuil à mesure que je tourne les pages du troisième tome. La lecture de cette trilogie coïncide donc pour moi avec une histoire bien intime qui va au-delà de ce que contiennent les romans. Mais c'est peut-être aussi pourquoi j'ai eu envie de creuser un peu plus loin et de comprendre ce qui les compose, d'en découvrir les différentes perspectives. Car je suis bien consciente que les lectrices et les lecteurs de l'Amie prodigieuse n'ont pas toutes perdu leur grand-mère au moment où elles ont ouvert les livres. Et pourtant, les romans de Ferrante touchent des lectrices et des lecteurs de partout dans le monde et connaissent un succès phénoménal. C'est cette fascination qui a servi de point de départ à ma réflexion. Pourquoi, si la trilogie a pour moi une résonance très particulière, est-elle pourtant si populaire auprès de tout le monde? Tout le monde au sens à l'échelle internationale, mais aussi tout le monde au sens qu'il est reçu autant comme un best-seller vendu dans les aéroports, fait vécu, que comme un chef-d'œuvre littéraire qui ne pourrait dès lors être accessible qu'à un champ très restreint d'individus. Ainsi, je me suis demandé d'emblée quelle est la fameuse recette de Ferrante qui fait que j'ai voulu offrir ce roman à mes amis, à mon copain, à mes parents, à mes beaux-parents et à ma grand-mère. J'ai alors entrepris une brève revue de presse sur le web. Je me suis imprégnée d'environ une vingtaine d'articles pour découvrir que mon intuition était légitime. Elena Ferrante a son propre hashtag. Son propre hashtag qui est le hashtag Fièvre Ferrante ou Ferrante Fever, ce qui confirme sa notoriété. Encore, j'ai appris que certaines fans organisent des soirées à thématique napolitaine en honneur de la ville dans laquelle se déroule l'histoire. Avide d'en savoir plus, moi qui n'avais jusqu'alors que dévoré ces romans, sans trop me poser de questions, j'ai continué de faire défiler les pages web et j'ai découvert qu'Elena Ferrante est en fait, depuis plus de 20 ans, une auteure anonyme. Elle a publié, en plus de l'Amie prodigieuse, son œuvre la plus récente, 10 romans sous ce pseudonyme, qui serait, affirme-t-elle, un hommage à l'écrivaine italienne Elsa Morante. De ce fait, elle est dépeinte par la presse internationale comme un phénomène littéraire et éditorial, un succès mondial avec 5 millions de copies de l'Amie prodigieuse écoulées partout dans le monde, une traduction en 42 langues, et une écrivaine culte dont certaines pizzas de Naples portent le nom. Le New York Times propose même des tours guidées sous le thème Elena Ferrante dans cette même ville italienne. Elle était aussi la seule auteure à figurer sur la fameuse liste des 100 personnalités les plus influentes de 2016 du magazine américain Time. En somme, j'ai découvert que je n'étais pas la seule à avoir développé une passion pour ces romans, mais que s'est créée une véritable communauté et que, de surcroît, cette fascination relevait sans doute de l'utilisation du pseudonyme. Ma quête est ici modeste. Je n'entends pas expliquer les rouages et nuances de l'entreprise qu'est l'adoption d'un pseudonyme littéraire. Je souhaite toutefois cerner ne serait-ce que les contours de sa démarche et montrer évidemment en quoi cela relève, à mon sens, une forme d'ingouvernabilité au féminin. Donc, je vous introduis d'abord à la saga, qui est l'Amie prodigieuse. Donc, les romans suivent deux héroïnes, Raffaella Cerullo, dite Lila, fille de cordonnier, et Elena Greco, fille du portier de mairie, tout au long de leur vie, c'est-à-dire de l'enfance à l'âge d'or. Pour l'instant, en fait, la série compte 3 tomes, traduit en français. L'Amie prodigieuse, le premier tome, qui retrace leur enfance dans un quartier pauvre de Naples, puis leur adolescence. Le Nouveau Nom, deuxième tome, qui relate cette fois-ci leur vie de jeune adulte, alors que Lila se marie et qu'Elena fait des études à l'École normale de Pise et devient écrivaine. Et le troisième tome, Celle qui fuit et celle qui reste, le dernier tome paru en septembre dernier, qui dépeint leur quotidien de femme adulte, alors qu'Elena est désormais mariée et exerce les métiers de professeure et d'écrivaine, et obtient un peu de succès dans la presse, et que Lila est divorcée, ouvrière dans une usine de saucisses, et qu'elle s'engage dans les luttes syndicales et féministes des années 70. Le quatrième tome, L'enfant perdu, dont nous ne connaissons malheureusement pas encore la date de parution en français, si je ne me trompe pas. Si vous la connaissez, j'aimerais vraiment la savoir. S'attachera à décrire le reste de cette vie lorsque ses deux amies d'enfance sont désormais des femmes âgées. Elena et Lila grandissent ensemble et se lient d'amitié, avant tout parce qu'elles appartiennent à une même classe sociale, mais aussi parce qu'elles découvrent peu à peu qu'elles ont le même intérêt pour la réussite et le succès, qu'elles souhaitent gravir les échelons sociaux et qu'elles le pourront, en se démarquant des autres grâce à leur intelligence remarquable. Or, elles s'éloigneront graduellement, Lila choisissant d'abandonner ses études à 16 ans et de travailler à la cordonnerie de son père, puis de se marier et d'avoir des enfants, et Elena poursuivant ses études jusqu'à la publication d'un premier roman, quittant Naples et sa vie de pauvreté. C'est ce qui déploie dans le deuxième tome. Les deux jeunes femmes semblent alors vivre une forme d'émancipation, chacune à leur manière. Or, le fossé se creuse encore plus entre les deux amies, l'une qui choisit le travail ouvrier, l'autre la vie intellectuelle. Il devient alors un fossé de classe. Les deux femmes sont d'ailleurs constamment opposées dans la série, malgré leur amitié forte, voire fusionnelle. Lila est celle qui parle fort, qui a un caractère frondeur, qui est brillante. Elena est aussi très intelligente, mais plus discrète. C'est la fille à lunettes et à boutons, toujours le nez dans les livres. Mais elles sont toutes deux des femmes ingouvernables. Au-delà d'un schéma simpliste, les livres mettent en scène deux héroïnes qui se battent pour devenir femmes, chacune à leur façon, dans la société italienne des années 70, une société aux traditions fortes, dominée par des valeurs patriarcales. Je cite à cet égard Elena Scapatici du journal Le Figaro. Elle parle des années de plomb en Italie, époque pendant laquelle se situe le deuxième tome de La Nuit prodigieuse. L'heure est à la révolution, mais comme le note Ferrante, à cette époque où on chamboulait tout, aucune fille ne tenait le haut de l'affiche. Ouvrière comme Lila ou surdiplômée comme Elena Greco, une femme est mariée d'abord et mama surtout. Fin de la citation. Il s'agit donc d'une œuvre empreinte de féminisme dans son contenu. Je voudrais vous entretenir sur la justesse de ton de Ferrante, la vérité et l'effet de réel qui se dégagent de son écriture, la violence et la misogynie qu'elle arrive à aborder de front tout en gardant une retenue admirable, la puissance narrative des récits, puisque de tout cela émane le féminisme. On en parle comme d'une fresque, d'ailleurs féministe et sociale, de romans où se mêlent avec brio l'intime et le politique, où on arrive à capter la complexité de l'amitié entre deux personnes, et surtout celle entre Lila et Lena, sans tomber dans des clichés grossiers ou dans la surenchère sentimentale. Cependant, c'est de celle qui a écrit tout cela dont je me suis engagée à vous parler, et qui est elle aussi, comme ses héroïnes, une femme ingouvernable. Elle est celle qui reste invisible, mais qui porte néanmoins une voix, une grande sincérité et un ton viscéral, pour reprendre les termes utilisés par son éditeur français chez Gallimard. Il y a 20 ans, lorsque le manuscrit de son premier roman, L'amour harcelant, a été accepté par la maison d'édition romaine E.O., Elena Ferrante a fait part de sa seule condition. Elle ne ferait rien pour la promotion de ses livres. Elle écrit dans une lettre qu'elle leur a remise « Je crois que les livres, une fois qu'ils sont écrits, n'ont pas besoin de leurs auteurs », y affirmait-elle. Depuis, elle n'a jamais dérogé à cette règle et n'accorde des entrevues que par courriel. Mais, comme le rapporte Enrica Sartori dans le magazine littéraire, je la cite, « La discrétion d'Elena Ferrante va bien au-delà du simple souci d'anonymat. C'est également un parti pris esthétique, une façon de s'effacer derrière l'écriture. » C'est précisément cet effacement qui m'intéresse, ce choix de se faire disparaître comme projet littéraire et ce que cette démarche dévoile. D'ailleurs, si cela tient comme l'essentiel de sa posture d'auteur, il est aussi central à toute son œuvre. Dès les premières pages du premier tome de L'amie prodigieuse, nous apprenons la disparition de Lila à l'âge de 66 ans. C'est le fils de cette dernière qui en avise Elena, la narratrice de l'histoire, et ce qui déclenche en elle le désir d'écrire l'histoire de leur amitié, de leur enfance jusqu'à l'annonce de cette disparition. Lena écrit. Elle voulait que chacune de ses cellules disparaisse, que rien d'elle ne soit retrouvé, ne serait-ce qu'un cheveu dans le monde. Lila s'est même découpée des photos de famille et elle n'a pas non plus laissé de notes. Le récit, donc, dès les premières phrases, évoque la disparition, le retranchement, l'effacement. Drôle de parallèle, ou plutôt un rapprochement beaucoup trop beau pour être vrai pour moi, qui cherche justement à établir ses liens entre l'œuvre et sa réception. Parce que, en fait, c'est là où tout se noue pour moi. Femme et disparition, il me semble que c'est un tandem beaucoup trop usuel. Lila disparaît et son auteur s'efface sous un pseudonyme. Mais dans l'œuvre comme dans la vie, pour une fois, ces disparitions ne sont pas acceptées. D'un côté, on cherche à faire revenir Lila en la faisant apparaître à travers les souvenirs d'Elena, ce qui est tout à fait légitime et beau, que cette amitié entre les deux femmes. Et de l'autre côté, on cherche à ce que l'auteur se dévoile. On ne supporte pas son effacement, son refus de se faire voir. Or, dans ce cas-ci, il n'y a rien d'appréciatif ou d'acceptable. La disparition de l'auteur est rejetée, mais pour des motivations qui ne sont pas à son bénéfice, bien évidemment. Quand les femmes choisissent de se taire, comme on voudrait qu'elles le fassent, ça ne marche pas. C'est inacceptable. C'est cette présence masculine insidieuse, ce boys club invisible, mais non moins puissant, qui doit choisir quand elles peuvent être silencieuses et quand elles doivent parler ou mieux se montrer. Lorsque Ferrante a refusé le prix littéraire Strega, l'équivalent du prix Goncourt en Italie, puisqu'elle ne désire pas se montrer ou s'exposer, des membres du jury, composés de journalistes, d'éditeurs, d'écrivains et d'écrivaines, ont contesté, comme Sandro Veroneschi, qui lui a rapproché de ne pas jouer le jeu. C'est que la presse, les critiques, les chroniqueurs, les journalistes, les acteurs en général du monde littéraire refusent le pseudonyme de Ferrante, en tentant notamment de disséquer son succès. En effet, depuis 2 ans, la presse internationale cherche, et je paraphrase ici, les ingrédients de ce triomphe planétaire, le mystère de cette écrivaine prodigieuse, le secret de la fièvre Ferrante. Certains donc s'intéressent effectivement à l'œuvre, à son contenu, à ses prouesses littéraires et à la véritable écriture de l'auteur. Car comme le note Elena Scapatici dans le Figaro, je la cite, « Derrière le nom mondialement connu, un vide, un abîme, qui laisse toute sa place aux mots et à l'imagination. » Fin de la citation. Puisqu'elle n'existe pas physiquement, qu'elle a fait le choix de se retirer de l'espace médiatique, en fait, elle ne laisse a priori aucune autre option que de s'intéresser à ses livres. Or, d'autres journalistes y ont vu, au contraire, une opportunité de prise de contrôle, un droit de prendre possession de cette identité inconnue, de ce corps invisible qui ne demandait qu'à le rester. Ce corps qui possède un véritable amour de la littérature et qui souhaite, avec cette démarche, que celle-ci soit remise de l'avant, valorisée, traitée pour ce qu'elle est en elle-même et que l'on ne s'intéresse pas à celle qui tient le crayon. D'autres, pourtant, continuent de vouloir dévoiler le mystère, de déchiffrer l'énigme s'il en est une. Ainsi, plusieurs hypothèses ont été avancées quant à sa véritable identité, notamment qu'elle était un homme et même un groupe d'hommes. Dans une longue entrevue accordée au Vanity Fair en août 2015, la journaliste Elisa Scapel rapporte que la plupart des personnes qui s'intéressent au genre sexuel d'Elena Ferrante sont des hommes. Elle lui écrit, je la cite, en traduction libre, « Pour eux, il est impossible de concevoir qu'une femme pourrait écrire des livres si sérieux, dans lesquels se mêlent l'histoire et la politique, et qui sont impartiaux quant à leur représentation du sexe et de la violence. Que la capacité de représenter le monde domestique comme une zone de guerre et la volonté de montrer les femmes sans faire de concessions, sous une lumière peu flatteuse, prouve que vous êtes un homme. Certains suggèrent que non seulement vous êtes un homme, mais que compte tenu de votre rendement, vous pourriez être une équipe d'hommes. » Et Ferrante de répliquer, « Mais avez-vous déjà entendu dire d'un livre écrit par un homme, c'est vraiment une femme qui l'a écrit, ou peut-être même est-ce un groupe de femmes? » En raison de son pouvoir exorbitant, je la cite encore, le genre masculin peut imiter le genre féminin. Le genre féminin, lui, ne peut rien imiter, car il est trahi immédiatement par sa faiblesse. Ce qu'il produit ne pourrait pas fausser la puissance masculine. Fin de la citation. En mars 2016, le philologue Marci Santagata publiait sa théorie dans un quotidien italien. Après avoir effectué des recherches sur les éléments chronologiques et topographiques des 4 romans de la saga, il a avancé qu'Elena Ferrante serait Marcel Marmot, professeur d'histoire contemporaine né à Naples. Cette dernière a nié cette révélation. Cependant, la révélation la plus troublante est celle de Claudio Gatti, mais surtout la manière dont ce journaliste économique a fait part des résultats de son enquête en octobre 2016 via divers médias importants de la presse internationale. Après avoir épluché les relevés fiscaux et les transactions immobilières de celles qu'il croit se cacher sous le pseudonyme de Ferrante, il en est venu à la conclusion que l'auteur mystérieuse était Anita Raja, traductrice et auteure italienne. Je le cite. Les données publiques sur la propriété immobilière montrent qu'en 2000, après le succès en Italie du film tiré du premier livre écrit par Elena Ferrante, elle a acheté un appartement de 7 pièces dans un quartier de Rome particulièrement onéreux et une maison de campagne, écrit le journaliste. Elle est aussi secrétaire aux éditions E.O. qui publie Elena Ferrante. Il a donc établi plusieurs liens factuels, notamment aussi le fait que les deux sont nés à Naples, qu'elles ont les deux fait des études supérieures à Pise, qu'elles pratiquent le même métier, etc. Puis, une très grande similitude entre les thèmes des romans de Ferrante et ceux de l'Allemande Christa Wolf, dont Anita Raja est la traductrice, lui ont permis d'en arriver à ses conclusions. Après l'article de Gatti, plusieurs auteurs et journalistes se sont portés à la défense de Ferrante. Mais qu'à cela ne tienne. Qui est-il pour vouloir la faire apparaître? Et de cette manière, en fouinant dans sa vie privée. Encore au-delà de cette pseudo-enquête menée par cet homme, pourquoi la question de l'anonymat doit-elle demeurer, en très grande majorité, au centre de toutes les entrevues, de tous les articles, de toutes les critiques des livres de Ferrante? Dans son recueil de textes « Frantumaglia », elle explique qu'elle a notamment fait le choix de ne pas participer au cirque médiatique parce qu'elle souhaite s'impliquer entièrement dans l'écriture. Elle dit même avoir besoin de se reconstruire après une période d'écriture. Elle prend ses distances de l'œuvre écrite parce qu'elle se sent saccagée de l'intérieur. Mais on ne la laisse pas tranquille. On s'en fiche, on veut savoir c'est qui. Je reprends ici les mots de Marc Cassivi, à mon grand désarroi, mais ils sont quand même pertinents ici. Je le cite. On aurait compris la démarche de Claudio Gatti si Elena Ferrante était une figure de proue de la Camorra napolitaine, la mafia italienne, une chef d'entreprise soupçonnée de malversation ou une candidate à une élection présidentielle qui fait de l'évitement fiscal depuis 18 ans. Mais elle est une auteure de romans dont le seul souhait est de conserver son anonymat. Fin de la citation. Et même si ce choix n'est sans doute bien sûr pas sans paradoxe, on lui a reproché que c'était une autre façon de faire parler d'elle, que c'était un coup de marketing. Je pose cette question avec Marc Cassivi encore une fois, et je le cite. « De quel droit un homme s'arroge-t-il le droit d'identifier sur la place publique, malgré elle, une figure de proue de la littérature féministe moderne? » Alors voilà ce que m'a révélé cette infime revue de presse sur la réception des œuvres de Ferrante et leur popularité. Que sa décision de publier sous un pseudonyme explique en partie l'engouement pour ses œuvres, mais que surtout saisir ces liens entre les œuvres et leur réception ont dévoilé l'ingouvernabilité de cet auteur et l'effet que ça a eu, et que ça a encore. Son effacement ou sa disparition du milieu littéraire fait d'elle une femme ingouvernable qui va à l'encontre de ce que l'on attend d'elle. Ironiquement, alors qu'elle aurait voulu que son anonymat permette aux gens de s'intéresser seulement à ses livres, cela provoque une vague de célébrité qui permet à certains acteurs du Boys Club de domestiquer cette ingouvernabilité. La question du pseudonyme soulève, à mon sens, et surtout dans le cas de Ferrante, la dialectique entre le visible et l'invisible. Il me semble qu'il y a dans ce désir de ne pas se nommer, mais surtout de ne pas se montrer, une force politique. Si socialement, les corps féminins sont survisibilisés, contrôlés, normés, l'ingouvernabilité tient donc dans l'effacement, dans la stratégie de ne pas le faire apparaître pour en conserver le pouvoir. Je vois dans le choix de Ferrante de précisément s'effacer derrière l'écriture en utilisant un pseudonyme, celui d'être une femme ingouvernable. Bien sûr, il ne s'agit là que d'une des stratégies possibles face au Boys Club littéraire, critique, universitaire et particulièrement journalistique et médiatique. Mais mon rôle n'est pas ici de légitimer ou de condamner les différents moyens de résistance et ou d'émancipation. Je crois cependant que l'on sous-estime le pouvoir politique de l'invisible dans certaines circonstances. C'est aussi ce que soutient Peggy Phelan dans son essai « Unmarked, The Politics of Performance ». Elle s'intéresse au lien entre le pouvoir politique et la représentation visible. Selon elle, l'idéologie de la visibilité à laquelle plus d'importance et de crédibilité est accordée de manière générale, et notamment dans les théories culturelles des 10 dernières années, efface le pouvoir du banal, du silence, de l'invisible ou du « unmarked », pour le dire avec elle, qui possède pourtant autant de force et de potentiel politique. Dans ce qui ne se voit pas ou dans les angles morts, ce qui n'est pas, détient une autre puissance, une dimension souvent négligée. C'est justement dans ce « je ne suis pas » ou « je suis ce que vous ne voyez pas » que les femmes, par exemple, peuvent puiser une agentivité et surtout un pouvoir politique. Phelan encourage donc la disparition active. Il s'agit d'utiliser l'invisibilité pour rendre les choses visibles et pour dès lors résister. Pour le dire avec elle, « There is a real power in remaining unmarked and there are serious limitations to visual representation as a political goal. » Ce corps que Ferrante choisit de cacher résiste. Son pseudonyme révèle le pari qu'elle fait. « Je suis ce que vous ne voyez pas et je revendique le droit à l'anonymat. Prenez et lisez. Ceci n'est pas mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » J'ai débuté cette communication sur une note personnelle et par souci de cohérence, c'est ainsi qu'elle se terminera. Pour moi, les romans de Ferrante sont avant tout l'histoire d'une amitié entre femmes. Car comme elle l'écrit dans Frantumaglia, l'amitié est un creuset de sentiments positifs et négatifs qui sont dans un état permanent d'ébullition. C'est cette effervescence que l'on ressent à la lecture de l'amie prodigieuse. Cet état qui donne l'impression qu'ensemble, entre filles, le monde nous appartient, qu'on peut briser des barrières et construire une société nouvelle. Un bouillonnement qui naît de la sororité. Car malgré qu'elles soient séparées au fil des pages, Elena et Lila conservent cet attachement au fil des années, des frontières et des différences. Et c'est cette affection sans limite qui m'a touchée, peu importe le nom qui se trouve sur la couverture. Peut-être, oui, que cette ambiguïté que crée l'utilisation d'un pseudonyme se dégage une forme de fascination qui participe à produire un certain effet chez le lecteur. Mais parfois, comme dans mon cas, ça ne change rien. Au début de ma lecture, je croyais que l'auteur s'appelait véritablement Elena Ferrante et j'ai reçu ces mots en plein ventre. Ainsi, finalement, je n'ai pas mené mes recherches assez loin théoriquement pour aboutir à des conclusions incontestables, sans doute. Je n'en avais pas l'intérêt de toute façon car j'avais attrapé la fièvre Ferrante. Je disais donc que je souhaitais cerner les contours de sa démarche, d'en saisir les limites et le potentiel. Je ne sais peut-être pas toujours ce qu'il en est véritablement, mais je sais que cela importe peu, tant que je continue de la lire, pour mon propre plaisir et celui de ma grand-mère. Je peux aussi soulever que ce choix, qu'est l'utilisation d'un pseudonyme, est parfois aussi nécessaire que l'on pense à toutes les femmes au cours de l'histoire qui n'ont pas eu d'autres options que de publier sous une identité masculine pour être écrivaines, ou d'autres qui, encore aujourd'hui, doivent demeurer anonymes pour s'exprimer librement dans leurs écrits. Si ce n'est pas le cas pour Ferrante, elle demeure tout de même une écrivaine ingouvernable, envers et contre tous, invisible, mais bien vrai. Voilà. Merci.